qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Ça va être le thème de ce message, de ce partage qu'on va avoir ensemble. Aller jusqu'au bout. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir passer mes vacances dans le sud de l'Italie. C'est vraiment un très bon souvenir. C'était un vieux projet que j'avais parce que j'ai toujours été passionné d'histoire et en particulier d'histoire de l'Antiquité. Et il se trouve que dans la région de Naples, vous savez, il y a un volcan qui s'appelle le Vésuve. Et au 1er siècle de notre ère, il y a deux villes, trois villes en réalité même, qui ont été ensevelies par l'éruption du Vésuve. Vous avez sans doute entendu parler de ces villes. Il s'agit de Pompéi, c'est la plus connue. Et il y a aussi Herculanum et une troisième ville qui est moins connue, qui s'appelle Stabiès. Et ces villes, elles ont été recouvertes par la lave et elles ont été dégagées progressivement. Ce qui fait que Pompéi, c'est une photographie de la vie à l'époque romaine. La vie est comme immobilisée. Alors vous savez, pour un historien, c'est extrêmement intéressant. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'aller voir ces ruines, parce que c'était vraiment révélateur de la vie au 1er siècle de notre ère. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que, bon, Pompéi, c'est plus une petite ville, c'est devenu une grande ville. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que les maisons modernes, les maisons qui étaient construites là, étaient rarement construites en entier. Il y avait plein de gens qui avaient commencé à construire leurs maisons, mais étrangement, les maisons restaient en chantier. Il y avait les bétonneuses dans les jardins, il y avait un étage qui n'était pas fait, il y avait la moitié de la toiture qui était faite. Alors j'ai trouvé ça très bizarre, je me suis dit c'est quoi, c'est le style Pompéi, c'est le style maison pas entière en fait, peut-être un truc qui s'est lancé. Et j'ai appris après que en fait les maisons n'étaient pas construites en entier parce que il se trouve que pendant dans le sud de l'Italie ou en Italie en général, je sais pas, mais en tout cas dans le sud de l'Italie, il se trouve que les propriétaires sont exonérés d'impôts tout le temps des travaux. Ce qui fait qu'ils font durer les travaux, en fait, ils ne terminent jamais vraiment la maison, comme ça ils payent moins de taxes. Alors c'est malin, hein. C'est malin. Ils préfèrent sacrifier leur confort plutôt que d'aller jusqu'au bout de leur projet. L'objectif quand même d'avoir une maison, c'est d'être à l'aise, c'est d'avoir un certain confort, mais ils préfèrent sacrifier ça pour payer moins d'impôts. Ils préfèrent vivre dans un chantier permanent. Et c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser pour nos propres vies. Dans la Bible, souvent, nos vies sont comparées à des maisons qu'on bâtit, à des maisons qu'on construit. Et la question qu'on peut être amené à se poser, c'est est-ce que nous voulons les uns et les autres aller jusqu'au bout de l'œuvre qui va assurer notre épanouissement personnel? Est-ce que nous voulons aller jusqu'au bout de l'œuvre que Dieu accomplit en chacun de nous pour que nous soyons épanouis, pour que nous soyons heureux? Parce que ça, à la base, il faut le vouloir. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Il y a une première étape, c'est qu'est-ce que je veux? À quoi je m'attends? Qu'est-ce que là je veux que le Seigneur fasse dans ma vie? Parce que ce que Dieu va faire dans ma vie, ça va avoir une répercussion dans l'Église, et la répercussion qu'il va y avoir dans l'Église va avoir une répercussion sur le monde qui nous entoure. Alors la question qu'on est amené à se poser, c'est ça, qu'est-ce que je veux que Dieu accomplisse en moi pour que ça se répercute dans l'Église et que ça puisse se voir au-delà de l'Église? Ensuite, il faut se disposer à recevoir quelque chose. Et puis ensuite, il faut avoir la volonté, le désir que l'œuvre qui a été commencée puisse continuer jusqu'au bout. Et qu'ainsi, ce que Dieu a prévu de nous donner, ce que Dieu a prévu là de faire en nous, puisse pleinement s'exprimer. Les uns et les autres, on a tous un potentiel extraordinaire, je le crois. Sauf que ce potentiel, souvent, il est comme amoindri par nos histoires, par nos blessures, par nos parcours. Et il y a des choses sur lesquelles on bute. Il y a des blocages qui sont là dans notre existence et qu'on a du mal à dépasser. Et à cause de ces blocages-là, on n'entre pas pleinement dans ce que Dieu veut pour nous. On n'entre pas pleinement dans le potentiel que Dieu, notre Créateur, a placé en nous. Et je crois que c'est quelque chose que nous sommes appelés à dépasser. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on vit à un moment. Ouais, j'anticipe un peu déjà sur ce que je vais dire. Mais il faut vraiment avoir ce désir de pleinement entrer dans ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Pour voir ça, on va se pencher sur un texte qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 3. On va lire à partir du verset 1. Voilà, le texte s'affiche. L'histoire d'une guérison qui va avoir lieu à Jérusalem, au temple de Jérusalem. On lit ensemble, un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et l'installait là, pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Première chose, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux vivre réellement ? Qu'est-ce que je veux vivre lorsque je me mets à l'écoute de la parole de Dieu ? Qu'est-ce que je veux vivre dans l'église que j'ai rejoint, à laquelle j'appartiens ? Cette histoire que nous venons de lire, elle illustre que la puissance qui a été manifestée par Jésus et dont les évangiles témoignent continue de se manifester dans l'église. Le livre des Actes des Apôtres raconte les débuts de l'église. Et là, on a une illustration avec ce qui est arrivé à cet infirme de ce qui est affirmé quelques versets plus tôt. Si on remonte au chapitre 2, verset 43, il est dit que chacun ressentait de la crainte car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Voilà ce que l'auteur du livre des Actes annonce et il raconte ensuite cette histoire qui illustre ce qu'il vient de dire. Et l'auteur veut montrer que les miracles ne s'arrêtent pas avec Jésus. Jésus a accompli des choses extraordinaires, mais ces choses extraordinaires continuent encore au sein de la première église, au sein de l'église primitive. Les miracles continuent avec les premiers disciples. Je suis à chaque fois, en particulier en ce moment, j'avoue, mais l'église de Jérusalem, je la trouve très très inspirante. J'aime beaucoup lire les premières pages du livre des Actes. C'est la première église là qui apparaît, qui se développe. Et je crois qu'elle est vraiment un exemple pour les uns et les autres. Quand je lis le livre des Actes des Apôtres et que je vois l'église de Jérusalem, j'ai envie qu'on soit l'église de Jérusalem. J'ai envie que ce qui se passe dans l'église de Jérusalem, ça se passe à Angers. Et que, comme on a l'habitude de dire, on puisse écrire les pages suivantes du livre des Actes. Vous connaissez la formule. Mais à chaque fois, ça me fait vibrer, ça, sincèrement. Je la trouve inspirante, cette église. Il se passe plein de choses dans cette église. C'est une église qui voit des milliers de personnes accepter Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. C'est une église qui apporte du soutien et de l'aide aux défavorisés. C'est une église qui connaît de l'opposition, mais qui gagne aussi le respect des non-croyants. C'est une église qui sait développer les relations fraternelles, alors que pourtant ils sont des milliers et des milliers. C'est une église qui apporte un enseignement biblique solide pour que les chrétiens fondent leur foi sur la vérité et qu'ils soient là forts pour être des témoins, pour prier, pour édifier, pour encourager. C'est une église où les dons prophétiques s'expriment. C'est une église qui soutient la mission en Samarie, en Syrie. C'est une église qui voit loin. Et ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien et ça me donne envie. J'espère que c'est pareil, que ça vibre de la même manière dans votre cœur. Et tout cela, c'est possible parce que au sein de cette église agissent des personnes comme Pierre et Jean qui ont conscience de la puissance dont ils sont investis. Il y a des gens comme Pierre et Jean qui ont conscience qu'ils peuvent vivre quelque chose que les non-chrétiens ne peuvent pas vivre. Ils connaissent Jésus, ils ont reçu quelque chose de Jésus, ils ont une relation avec Jésus, et ce qu'ils vivent avec Jésus, c'est ce qui leur permet d'accomplir des actes aussi extraordinaires que celui que nous venons de lire. Là, c'est possible dans cette église parce que vous avez des gens comme Pierre et Jean qui ont conscience qu'ils peuvent communiquer quelque chose que les gens autour d'eux, le monde ne peut pas communiquer. Et tout part de là, de cette conscience du mandat, des ressources que Dieu nous a donné. Tout part de là. Le boiteux a été guéri et a été sauvé parce que Pierre et Jean ont rempli le mandat que Jésus leur avait confié. Témoigner de l'amour de Dieu, annoncer l'espérance, proclamer la venue du royaume de Dieu. Ils vont continuer l'œuvre de Jésus. Et ils n'y vont pas avec leur propre force, ils n'y vont pas avec leur propre savoir, mais ils y vont avec la foi et la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est pas Pierre qui a guéri ce boiteux. C'est Jésus de Nazareth, c'est l'invocation du nom de Jésus qui a fait que la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée et que cet homme s'est levé. Eh oui, ah, amen. Alors je remercie la personne qui a dit amen. Je vais lui donner mon planning et elle pourra venir à toutes les réunions que je vais faire. Est-ce qu'il y en a par hasard d'autres qui veulent dire amen ? Amen. Ok, tout le monde a dit Amen. Même Nadine a dit Amen. Merci. Ok, super. Bon, je pense qu'en fait, l'actualité, personne n'échappe à l'actualité en ce moment. Et tout le monde connaît ceux qui sont affichés sur cette photo. Vous savez que tous les membres de l'équipe de France de football ont été choisis par Didier Deschamps, le sélectionneur. C'est Didier Deschamps qui a fait le choix de qui jouerait et de qui ne jouerait pas. Il y en a qui auraient bien voulu faire partie de l'équipe, mais ils n'ont pas vraiment rempli les conditions. Donc, mais tous ceux qui sont là ont été choisis. Deschamps les a tous choisis pour représenter la France, pour représenter notre pays au niveau de l'Europe. Ouais, exact. Représenter notre nation, représenter la France dans le cadre de cette compétition. Une fois que Didier Deschamps a choisi chacun de ses joueurs, il a mis à leur profit toutes les ressources qui étaient nécessaires pour qu'ils puissent être performants sur le terrain, pour qu'ils puissent être au top de la compétition. Il a donné aux joueurs un lieu d'entraînement 5 étoiles, carrément un château, pour pouvoir s'entraîner. Il a mis à leur service des diététiciens qui leur permettent d'avoir le régime alimentaire le plus approprié pour pas prendre trop de kilos ou pour pas être trop maigre. Juste ce qu'il faut pour pouvoir là jouer comme il faut. Il a mis à leur disposition des kinés. Ils se font masser des muscles, on sait même pas qu'ils existent, pour que vraiment ils soient solides, ils soient forts. Des kinés à leur disposition. Ils ont des maillots qui leur permet de courir plus vite que le vent, anti-transpirant pour pouvoir être très à l'aise. Ils ont embauché un coiffeur avec un doctorat pour Pogba. Toutes les ressources qu'il faut pour que les joueurs soient les plus performants possibles. Mais imaginez que le premier jour de la compétition, lors du match contre la Roumanie, Didier Deschamps il soit sur le terrain et puis l'heure arrive. Bientôt 21h, ça va être le coup de sifflet qui va être donné. Et puis, les Roumains sont là, mais les joueurs de l'équipe ne sont pas là. Comment ça s'impatienter? Mais qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils sont? Ils regardent sa montre, ils disent, mais ils sont pas là, les joueurs. Et puis, il y a quelqu'un qui vient lui dire, mais si, ils sont là, les joueurs. Il dit, mais ils sont où? Il dit, regarde, ils sont là, ils sont dans la tribune. Ils sont assis, ils sont parmi les supporters. Alors, ils sont venus avec les maillots, ils ont les maillots bleus, ils ont les crampons aux pieds, mais ils sont assis avec les spectateurs. Vous imaginez la réaction de Didier Deschamps? Il va venir, il va dire, mais oh les gars, là, qu'est-ce que vous faites là? Et oh, Dimitri, N'Golo, et qu'est-ce que tu fais là? Paul, c'est pas ici que tu dois être, c'est sur le terrain. Il va dire, mais on est tranquille, on est à l'aise, on vient de se faire masser, on a les maillots antitranspirants, on est très bien là, pourquoi est-ce qu'on irait transpirer sur le terrain? Ce serait curieux. Ce serait bizarre, en réalité, c'est pas ce qui s'est passé. Non, les joueurs, ils étaient là. Et toutes les ressources qui ont été mises à leur disposition, ils les ont utilisées pour pouvoir représenter la France. Ils sont venus, ils sont descendus sur les terrains et ils ont été victorieux, 2-1 contre les Roumains, vous vous souvenez, hein. Ils ont été victorieux, ils se sont donnés, ils ont fait face à l'adversaire. Ils se sont impliqués parce que là, ils ont utilisé toutes les ressources que Didier Deschamps leur avait données. Ils ont là bénéficié des encouragements du coach, de la parole du coach. Et ils se sont dit, on y va. Et ils ont gagné. Ils étaient sur le terrain. Comment est-ce que nous représentons le royaume de Dieu les uns et les autres? Dieu nous choisit. Dieu nous envoie. Dieu nous mandate pour le représenter. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour agir en son nom. Mais est-ce qu'on est assis dans les tribunes? Où est-ce qu'on est sur le terrain? Est-ce que on porte juste le maillot? Dire, ouais, je fais partie de cette église. Ouais, je suis chrétien. On porte juste le maillot? Ou alors est-ce qu'on utilise toutes les ressources que Dieu met à notre disposition pour montrer qui il est et ce qu'il a fait pour les hommes? Est-ce qu'on est juste sur la photo? Ou est-ce qu'on entre dans la mission que Dieu nous confie? La réponse que nous donnons les uns et les autres, elle est très importante parce que c'est ce qui va déterminer l'action et la mission de cette église, bien entendu. Mais ça va passer par moi. Quel est le rôle que je veux jouer? Comment est-ce que je me sens mandaté? Est-ce que j'ai conscience de toutes ces ressources, de l'œuvre que Dieu peut accomplir en moi, du Saint-Esprit qui peut agir au travers de moi pour accomplir cette œuvre? Le texte que nous avons lu, c'est vraiment une invitation à considérer que l'église n'est pas une réalité statique, mais dynamique. Et la construction de cette église, l'édification de cette église ne dépend pas de nos ressources propres, mais de notre foi et de la prise de conscience de ce que nous pouvons faire par la puissance du Saint-Esprit. Ça a été dit combien de fois, ça ? Des milliers de fois. Je pense que depuis que cette église existe, depuis 60 ans, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais on a besoin, à des moments, de faire le point et de prendre conscience. Et ouais, c'est vrai. Est-ce que là, j'ai pas besoin de réaliser à nouveau tout ce que Dieu met à ma disposition ? Et ces ressources qu'il met à ma disposition, pourquoi je les utilise ? Simplement pour moi ? Ou est-ce que je veux que ça impacte l'église ? Ou est-ce que je veux que ça impacte le monde qui est autour de l'église ? On raconte qu'un jour, le théologien catholique, le dominicain qui a vécu au XIIIe siècle, qui s'appelle Thomas d'Aquin, avait été convoqué par le pape Innocent II. Thomas d'Aquin. Et quand Thomas d'Aquin est entré dans la salle de réception, le pape était en train de compter une forte somme d'argent. Il y avait des pièces de monnaie qui étaient disposées sur sa table. C'était les revenus de l'Église. Vous savez que au Moyen-Âge, l'Église, elle était très riche. Et il était en train de compter l'argent, il était en train de compter les revenus de l'Église. Et quand Thomas est entré dans la pièce, le pape s'est adressé à lui et lui a dit « Tu vois, Thomas, l'Église ne peut plus dire « Je n'ai ni or ni argent ». Et il faisait référence au texte que nous avons lu tout à l'heure. Et Thomas d'Aquin lui a répondu « C'est vrai, très Saint-Père, mais elle ne peut plus dire non plus « Lève-toi et marche ». Je préfère faire partie d'une église comme celle de Jérusalem qui ne compte pas sur ses propres ressources, qui ne compte pas sur ses propres moyens. Je préfère compter sur l'œuvre que Dieu est capable d'accomplir au travers de ceux et de celles qui ont foi en lui, au travers de ceux et de celles qui prennent conscience que Dieu peut faire des choses extraordinaires. L'évangile, c'est ça. C'est Dieu qui fait des choses extraordinaires au travers de gens ordinaires, comme vous et comme moi. Mais il faut l'accepter, ça. Il faut le recevoir pour pouvoir le vivre. Parce qu'on peut se dire facilement, mais ouais, oh là là, bon, quand je lis le livre des Actes des Apôtres, je vois ce que Pierre et Jean ont fait, mais j'ai pas l'envergure, moi, de Pierre et Jean. J'ai pas cette assurance-là, j'ai pas assez d'assurance pour servir le Seigneur, je suis pas assez solide spirituellement, j'ai tellement de problèmes personnels à régler. Et ça peut être vrai, bien entendu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer, continuer de s'appuyer sur le récit de la guérison du boiteux pour voir comment ça se passe pour être guéri et libéré de ce qui nous empêche de vivre pleinement ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc là, qu'est-ce que je veux ? Premièrement, vouloir. Deuxièmement, commencer quelque chose. Les deux apôtres s'adressent au boiteux en lui disant « Regarde-nous ». Et le boiteux s'attend évidemment à recevoir de l'argent. C'est l'aide coutumière qu'il reçoit. Il est placé auprès de cette porte parce que c'est un lieu de passage et c'est là que les mendiants se placent évidemment. Et il s'attend à recevoir de l'argent de la part des deux apôtres. C'est d'ailleurs ce qu'il a demandé, bien sûr. Assez machinalement, il devait tendre la main pour pouvoir recevoir ces pièces qui lui permettaient de vivre pour la journée. Cet argent qu'il reçoit, c'est ce qui lui permet d'avoir le minimum pour continuer à vivre. On n'imagine pas que cet homme-là était riche. On n'imagine pas qu'il était en train de faire fortune parce qu'il était en train de mendier là à la porte. Là, c'était le minimum qu'il recevait pour vivre. Mais Pierre lui dit qu'il n'a pas d'argent. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne voulait pas lui donner de l'argent, mais ça veut dire surtout que l'argent n'est pas la solution à son problème. C'est pas ça qui va changer sa vie. Ça fait des jours, des mois, des semaines, des années qu'il reçoit de l'argent. Mais il est toujours boiteux, il est toujours infirme, il est toujours impotent. La vraie solution à son problème, c'est de pouvoir utiliser ses jambes. C'est de pouvoir utiliser tout son potentiel, parce que ça va lui permettre de pouvoir avoir une vie sociale normale, ça va lui permettre de pouvoir trouver du travail et de pouvoir gagner sa vie. Et alors qu'il là, il est marginalisé, il va pouvoir se réintégrer dans la société. La solution au problème, c'est de retrouver l'usage de ses jambes. Et c'est ce que Pierre et Jean, en tant que disciples, peuvent lui donner. Et ils savent bien que ça, c'est ce qui va changer les choses dans la vie. Le boiteux s'attend à recevoir quelque chose de la part de Pierre et Jean, mais pas la bonne chose. Alors on sait les uns et les autres que avoir la foi, c'est s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Mais nouvelle question, qu'est-ce que je m'attends à recevoir ? Est-ce que je m'attends à recevoir ce qui me permet de vivre au minimum ? Ou est-ce que je m'attends à recevoir ce qui est vraiment la solution à ce qui m'handicape, à ce qui fait que je suis infirme dans un domaine de ma vie ? Est-ce que je veux vraiment la solution à ce qui va me permettre de vivre pleinement, d'exprimer mon réel potentiel ? Ce que Dieu a prévu quand il m'a créé, quand il m'a fait venir au monde ? Qu'est-ce que je veux ? Il y a bien des choses qui peuvent nous empoisonner dans la vie. et qui nous limitent dans notre épanouissement, personnel et dans les relations que nous avons avec les autres. Ça crée des blocages qui nous empêchent de vivre pleinement, comme je le disais en introduction. Comme le boiteux, là, il est bloqué, il ne peut pas vivre pleinement. Et on boite dans certains domaines de nos vies. Pour être libéré de ces blocages, il y a quelque chose qu'il est absolument indispensable de faire. C'est d'aller au fond des choses. La facilité, c'est de se contenter du minimum. C'est de se contenter de ce que l'on va recevoir à un moment donné, comme la pièce de monnaie qui tombe dans la main du boiteux. C'est de se contenter de ce qui nous fera du bien sur le moment, mais qui ne nous guérira pas totalement. On se satisfait d'un encouragement, on se satisfait d'un bon moment au culte, on se satisfait d'un rassemblement, d'une conférence. Alors ça a de la valeur tout ça, hein. C'est une pièce d'argent, ça a quand même de la valeur. Ça a de la valeur. Mais on reste finalement confronté à nos travers parce qu'on n'est pas allé au fond des choses. Si on ne traite pas à la source nos problèmes personnels, on va ne faire que de traiter leurs effets. Je répète. Si on ne traite pas à la source nos problèmes personnels, si on ne va pas au fond des choses, on ne fera que de traiter leurs effets. On va faire une petite pause vidéo. Je sais que certains l'attendent. Et vous allez voir, ça va nous permettre d'illustrer et d'exprimer ce propos et on va aller un petit peu plus loin. Excusez-moi, madame. Merci beaucoup. Et voilà. Quelquefois, c'est ce qui se passe aussi dans nos vies. On se concentre sur ce qui se manifeste en périphérie plutôt que d'aller au fond des choses. Vous avez bien compris que le problème, c'était pas le sac, le problème, c'était la dame. Et il y a certains traits de nos caractères qui sont en fait les symptômes de problèmes qui sont beaucoup plus profonds. Et si on ne prend pas conscience de ça, on va toujours traiter les choses qui sont en périphérie sans aller au cœur du problème, sans viser justement ce qui est à la source des problèmes relationnels que nous pouvons avoir, des problèmes qui touchent notre caractère, notre personnalité. Je vais juste prendre un exemple, mais il y a des gens qui cherchent constamment à attirer l'attention. Ils sont là, ils veulent briller. Ils veulent être les plus beaux, ils veulent être les plus drôles, ils veulent quelquefois même être les plus spirituels. Et ça, quand on est confronté à ce genre de personnes, on voit que c'est un trait de caractère qui ne facilite pas les relations avec leur entourage, parce que ces gens-là, ils sont des fois un peu envahissants, à toujours vouloir qu'on les remarque. Mais ça, ce n'est qu'un effet périphérique. On peut se dire, oh ouais, il est pénible quand même. Mais c'est un effet périphérique de quelque chose de beaucoup plus profond. Souvent, ça révèle un problème affectif. Si on veut absolument attirer l'attention et si on veut absolument là être le plus, le meilleur, c'est parce qu'on veut être aimé. Et souvent, c'est la cause, c'est un déficit d'amour. C'est que quelque part, il y a un problème affectif. Donc, si on se contente justement de juste d'essayer de régler les choses en périphérie, on va jamais vraiment régler le problème. Sur le plan spirituel, il arrive qu'on se contente de traiter les symptômes plutôt que le mal. Mais en fait, les réactions que nous avons dans nos relations, ce sont des informations qui nous montrent ce qui ne va pas en nous. Là, en l'occurrence, ce qu'il faut, c'est traiter le problème affectif. Si cette personne-là, elle se dit, bon, ok, là, je vois, j'ai un problème, j'essaye de m'imposer, il ne faut pas que je fasse ça, parce que ça, au niveau de mes relations, ça gâte un peu les choses. Alors, il est là, il est à table parce qu'il y a une soirée, et puis il se retient. Mais au bout d'un moment, il peut faire ça pendant une heure, pendant deux heures, mais on sait bien que si le problème affectif n'est pas traité, à un autre moment, ploum, ça rejaillira. C'est exactement ça. Quelqu'un qui est aux prises avec la colère, par exemple, s'il sent à un moment donné, ses enfants l'énervent, ou il sent que là, ça va exploser, il peut aller dehors, il peut cogner sur un arbre. C'est mieux, hein, de cogner sur un arbre. Mais est-ce que le problème sera réglé? C'est le symptôme, c'est la périphérie. Ce qu'il faut, c'est aller au fond des choses. C'est comme si je manque de confiance en moi. Je donne juste un autre exemple. Si je manque de confiance en moi, je peux le matin me lever en me disant « Je suis beau, je suis le meilleur, je vais y arriver, c'est bon. Je suis un vainqueur, je suis un winner. » On peut s'auto-suggérer, mais peut-être que dans deux jours, on aura beaucoup moins d'énergie, on sera moins disposé à ça, et puis finalement, les choses continueront comme elles ont continué. Non, ce qu'il faut, c'est que je comprenne où est le problème. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas confiance en moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai une si piètre estime de moi-même? Régler, aller au fond des choses, régler le problème. Se contenter du minimum, se contenter du mieux plutôt que du bien, se contenter de l'amélioration momentanée plutôt que de la délivrance totale peut conduire à accepter sa condition. Comme le boiteux. Dire, boiteux, il aurait pu choisir de rester boiteux. Ah, je suis coincé. Je peux pas bouger. Je peux pas faire plus. C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas faire autrement. On s'impose soi-même des limites parce qu'on fait le constat de nos faiblesses, on fait le constat de ce qu'on ne peut pas faire, on fait le constat de nos efforts qui n'aboutissent à rien et on s'impose soi-même des limites qui nous empêchent d'acquérir et d'exprimer notre vrai potentiel. Il y a cette phrase que je trouve très encourageante de Franklin Roosevelt, l'ancien président des États-Unis, qui a dit « La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. » La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Il faut aller au fond des choses. C'est important d'aller au fond des choses. C'est important de pouvoir la prendre conscience. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais aller au fond des choses, c'est ce qui fait que je vais pouvoir avancer dans la vie. C'est ce qui fait que je vais pouvoir être libéré, délivré. Je n'ai pas fait exprès. Ça vous donne envie de chanter, ça. De ces blocages qui sont en moi. Mais une fois qu'on a commencé, ce qu'il faut, et c'est la troisième partie qu'on va voir, c'est continuer. Il fallait que le boiteux remplisse une condition pour recevoir la guérison. La condition que le boiteux devait remplir, c'est avoir confiance en Jésus, avoir foi en Jésus. Pierre invoque le nom de Jésus et donne un ordre au boiteux pour qu'il soit guéri. On a lu ça au verset 6. Par le nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, lève-toi et marche. Pierre manifeste l'autorité spirituelle dont il a été investi. Mais rien ne se serait passé si le boiteux, premièrement, n'avait pas saisi la main de Pierre pour se lever. C'est ce qui nous est dit au verset 7. Pierre lui tend la main et il saisit cette main pour se mettre debout. Et rien ne se serait passé, deuxièmement, s'il n'avait pas fait le choix de marcher. C'est ce qui nous est dit au verset 8. D'un bond, il fut sur ses pieds et il se mit à marcher. C'est quand il se lève que ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Mais c'est quand il se lance que la guérison se manifeste pleinement. Jusqu'à, il nous est même dit qu'à la fin, il va sauter. Il marche et il saute. Donc là, il est en train de vérifier là, que les chevilles sont bien devenues dures, sont bien devenues solides. Et il peut le constater par lui-même. Mais c'était sa décision à lui d'entrer dans la guérison d'une certaine manière. Son plein potentiel s'exprime parce qu'à un moment donné, il s'est élancé. Il est guéri parce qu'il a désiré être guéri. On pourrait faire le parallèle avec d'autres textes dans l'Évangile. Souvenez-vous de l'histoire de l'aveugle, Bartimée. Il est à la porte de Jéricho, il est en train de mendier. Et quand il entend que Jésus arrive à Jéricho, il dit « Aie pitié de moi, aie compassion de moi, fils de David !» Et Jésus va se tourner vers cet aveugle et vous vous souvenez de la question que Jésus va poser à Bartimée. « Que veux-tu que je te fasse ? Que veux-tu que je te fasse ?» Alors évidemment, Bartimée ne va pas dire « écoute, mon bâton usé, j'aimerais bien avoir une nouvelle canne blanche. » ok, d'accord, voilà. Waouh, elle est super belle. C'est pas ça qu'il va demander. Souvenez-vous aussi de l'histoire du paralytique qui est allongé au bord de la piscine de Bethesda. Il attendait que l'eau bouge pour pouvoir être jeté dans l'eau parce qu'il pensait que c'était comme ça qu'il allait être guéri. Et Jésus arrive, il pose son regard sur lui et il va lui poser une question. Veux-tu être guéri ? Veux-tu être guéri ? Non. Ça fait 38 ans. Là, si je fais un peu d'effort, là, je peux atteindre les 40, je pense. Les 40 ans de paralysie, les 40 ans de maladie. Non, il ne va pas répondre ça. À chaque fois, ils vont avoir une réponse ou une disposition qui va leur permettre de pouvoir entrer dans la guérison. Nous ne sommes pas responsables de nos blessures. Nous ne sommes pas responsables des choses qui, dans nos histoires personnelles, nous ont frappés, nous ont blessés. Mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Rien ne se fait en nous sans que nous l'ayons voulu et décidé. Et les choses se font quand nous saisissons par la foi la parole qui nous invite à être guéris. Alors c'est une chose de se lever, c'est une autre que de marcher. Nous pouvons nous lever, comme le boiteux qui a entendu la parole de Pierre. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il entend cette parole et c'est ce qui fait qu'il va se lever. Et ça, c'est, on peut se lever les uns les autres, on peut être dans cette position quand j'entends la parole. Là, quand j'en reçois cette parole et que je comprends que Dieu peut faire quelque chose pour moi, je suis prêt à croire, je suis prêt à recevoir, je suis prêt à placer ma foi dans l'action de Dieu. Oui, là, ce qui est en train d'être dit, c'est pour moi. Oui, je crois là que ce Dieu qui remplit l'univers, il s'est révélé en Jésus-Christ et il peut agir en moi, il peut changer quelque chose en moi. Il peut intervenir là où personne d'autre ne peut intervenir. C'est souvent ce qu'on vit d'ailleurs au début de notre conversion. on est touché, on est frappé, on vit quelquefois même des moments d'émotion. Il y a quelque chose qui change. Ça, c'est quand on se lève, on reçoit la parole, on croit dans la parole. Mais ça peut s'arrêter là. On peut juste se lever. Mais Dieu nous invite aussi à marcher, à continuer le processus de guérison. Dieu nous invite à ce que l'œuvre qu'il a commencée lorsque nous avons entendu sa parole et que nous l'avons reçue comme Seigneur, comme Sauveur, il nous invite à ce que cette œuvre-là continue. C'est ce que je disais, il faut aller jusqu'au bout. Être libéré de ce qui dysfonctionne en nous peut prendre du temps. Et c'est sûr que ça demande de l'humilité, ça demande du courage d'affronter nos faiblesses. C'est dur parce que on doit faire face à des réalités qui sont contraires à l'image que l'on a de nous-mêmes. Dire, ouais, là, ça, je sais que ça fonctionne pas bien dans ma vie. Et des fois, on n'a pas envie de le voir. On préfère pas regarder, fermer les yeux. C'est dur, ça, hein, faire face à nos faiblesses. C'est dur parce que ça veut dire aussi admettre qu'on a besoin d'aide quelquefois. On a besoin d'être accompagné. On a besoin d'avoir des conseils. On a besoin, là, d'avoir cet accompagnement. Ça veut dire reconnaître des choses qu'on n'a pas envie de revivre, dont on n'a pas forcément envie de se souvenir, alors qu'il s'agit surtout de mettre des mots sur ce qui provoque ces dysfonctionnements, le désir d'être aimé, l'amertume, la révolte, la jalousie. Mais cet encouragement nous est donné ce matin. Ne surtout pas s'arrêter. Ne surtout pas s'arrêter. Surtout quand ça commence à aller mieux. Parce que alors ça, c'est le piège. On réalise ce qui ne va pas bien en nous. On a l'humilité, on a le courage d'aller voir quelqu'un pour lui dire... Là, je ne peux pas m'en tirer tout seul. J'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'être conseillé. Et souvent, et même toujours, ce qui se passe, c'est que on commence à comprendre pourquoi on a ces réactions, pourquoi on dysfonctionne. Et quand on commence à comprendre, on commence à aller mieux. Et le piège, c'est de se dire « Ah, ça va mieux, donc ça y est, j'arrête ». Mais non, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer de marcher jusqu'à sauter, jusqu'à être totalement libéré. Il ne faut pas se faire piéger par ça, parce que quand ça commence à aller mieux, ça devient un alibi pour s'arrêter de marcher, pour ne plus aller jusqu'au fond des choses. Mais Dieu est avec nous, au-delà du conseil, au-delà du soutien que nous avons, c'est Dieu qui se manifeste, c'est Dieu qui parle. Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe au chapitre 57 et au verset 15. Ça, c'est une parole là que vous pouvez vous saisir. « Or voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout. » dont la demeure est éternelle et dont le nom est unique. C'est Dieu qui parle de lui-même, bien sûr. Moi, l'unique vrai Dieu, j'habite là-haut, mais je suis avec les hommes qui se trouvent accablés et ont l'esprit d'humilité pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. Dieu, là, le Dieu de l'infini, le Dieu de l'éternité, il vient nous rejoindre dans ce qui ne va pas. Il vient nous rejoindre dans ce qui a besoin d'être amélioré. Il n'est pas là pour nous écraser. Il est là justement pour nous relever à la condition qu'on continue de marcher. Il est avec nous dans ce cheminement de restauration. La volonté de Dieu pour nos vies, c'est que nous soyons totalement libres de ce qui nous limite, de ce qui nous empêche, d'être totalement épanouis, afin que nous puissions vivre ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Il y a eu, on va reparler encore un peu de football pour terminer. Mais après le match de la demi-finale, vous avez certains joueurs qui ont été interviewés à chaud. Et il y a, parmi les réactions, il y en a une qui m'a particulièrement frappé, c'est celle de Patrice Evra. Bon, le capitaine de l'équipe de France, c'est Lloris, Hugo Lloris. Mais le leader moral de l'équipe de France, c'est Patrice Evra. C'est lui, c'est ce joueur-là. Il a l'expérience, il a 35 ans, je crois, maintenant. Donc il a quand même pas mal d'expérience. Et c'est lui qui fédère l'équipe. C'est lui-là qui réunit l'équipe autour des objectifs. On a remporté une grande victoire. On a battu les champions du monde. Donc, comme disait ma fille, si on a battu les champions du monde, c'est nous qui sommes champions du monde maintenant. Une grande victoire. 2-0 en plus. Enfin, c'est pas rien, quoi. Mais ce qui m'a frappé dans la réaction de Patrice Reva, c'est que il a dit, quand on a envisagé ce match-là, on était prêt à souffrir. Mais on était obligé de gagner. Sauf que la demi-finale, c'est pas le but en soi, c'est pas la finalité. L'objectif, c'est la victoire dimanche soir. Cette finale, c'est un rêve, mais il n'y aura pas d'échec. Ce sont les propres paroles de Patrice Evra. Il venait de vivre un bon moment, mais il était déjà passé à la finale. Ça y est, la demi-finale, c'est terminé maintenant, c'est la finale. Il faut que nous raisonnions de la même manière dans notre cheminement. Il faut que nous ayons cette même logique de nous projeter, de ne pas nous arrêter à ce que nous recevons à un moment donné, mais de nous projeter jusqu'à la guérison totale, jusqu'à la délivrance totale, jusqu'à ce que nous puissions nous saisir pleinement de ce que le Seigneur veut nous donner, de ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Il y a de bonnes choses devant toi. Il faut juste que tu continues à marcher. Continuez à marcher. Le boiteux, une fois guéri, il est entré dans le temple. On va voir ça pour terminer, pour conclure. Le boiteux est entré dans le temple pour louer Dieu. C'est ce qu'il nous a dit au verset 8. On peut relire ce verset. Non, enfin bon, vous voyez. On l'a lu tout à l'heure. Ceux qui le voyaient impotent près de la porte sont surpris. Ils ont été interpellés par la guérison. Ils se sont dit, mais ce gars-là, là, c'est celui qui, depuis peut-être des années, on le voit, il est au pied de la porte et il peut pas marcher. On l'amène là tous les matins. Il peut pas utiliser ses jambes. Et là, on le voit, il est en train de marcher. Il est pas seulement en train de marcher, il est en train de sauter et il est en train de louer Dieu. Et ça interpelle profondément ceux qui le voient. Ils sont interpellés, ils sont surpris par la guérison. Et ce que j'aime, c'est vraiment le fait de préciser qu'il loue Dieu. Qu'est-ce que c'est que la louange ? La louange, c'est remercier Dieu. La louange, c'est apporter à Dieu un sacrifice de bonne odeur. On connaît tout cela. C'est vrai que c'est le remercier Dieu. Mais la louange, suprêmement, il me semble que c'est l'expression de personnes qui sont devenues ce qu'elles sont destinées à être. Des personnes libres. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, moi, c'est ce qui me frappe. Vous avez là des milliers de personnes qui sont dans le ciel, qui sont dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de louer. Ils sont en train d'adorer. Ils sont totalement libérés parce qu'ils sont au ciel avec Jésus. Lorsque nous louons Dieu, lorsque nous élevons nos voix vers Dieu, nous sommes en train d'anticiper ce moment-là. Nous exprimons la liberté que Dieu a pour chacun d'entre nous. Parce que je suis guéri de mes blocages, parce que je suis délivré de ce que mon histoire a pu semer en moi. Ça, maintenant, c'est terminé. J'entre pleinement dans ce que Dieu a prévu pour moi. Et vous savez, ça parle. Et ça contribue à ce que l'église de Dieu, l'église de Christ, soit vivante. Ça contribue à ce que l'église d'Angers puisse ressembler à l'église de Jérusalem, je le crois profondément. Il y a quelques temps de cela, il y a quelqu'un qui me confiait, quelqu'un qui a vécu des problèmes terribles, terribles, qui ont eu un impact terrible dans sa vie personnelle. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait justement des dysfonctionnements qui ont créé cela. Et puis, alors qu'elle a amené voir le docteur un de ses enfants, elle a évoqué ce qu'elle a pu vivre, ce qu'elle a pu traverser. Et la question du docteur, ça a été de dire, mais comment vous en êtes tiré ? Quel genre de traitement vous avez eu pour pouvoir vous tirer de cette situation-là ? Quel est le psychologue que vous êtes allé voir ? Et cette personne, elle a répondu, je ne suis pas allé voir de psychologue, en fait, j'ai demandé rendez-vous avec la femme de mon pasteur. Puis on a parlé de ce qui n'allait pas. On est allé au fond des choses. Et la réaction de ce docteur, c'est dit, mais elle est où cette église ? Elle est où cette église ? Si on va au fond des choses, et si on rentre pleinement dans cette liberté, dans cette guérison, ça va se voir, on va rayonner, et on va remplir la mission que Dieu nous a confiée. Est-ce que ça ne vous donne pas envie, ça ? Est-ce que les uns et les autres, vous n'avez pas envie là de continuer, de marcher, de commencer ? Est-ce que vous avez envie non seulement de vous lever, mais d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut accomplir dans chacun de vos cœurs, dans chacune de vos vies ? Jusqu'au bout pour votre bonheur et votre épanouissement personnel. Jusqu'au bout pour que ce monde sans espoir puisse dire « Il existe autre chose, il y a d'autres possibilités. » Est-ce que ça vous fait envie, ça ? Qui a le courage de dire « Amen » ? Qui a le courage de dire « Oui » ? Qui a envie de voir les choses changer dans sa vie ? Qui a envie de voir les choses changer dans l'église ? Qui a envie de voir les choses changer dans la ville ? Est-ce qu'il n'y a pas plus de monde que ça ? Un dernier ? Amen. On va prier, mais on ne va pas le faire simplement pour vivre un bon moment. On ne va pas simplement la recevoir une pièce de monnaie. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on aille au fond des choses. Et on va le faire en louant Dieu. On va exprimer cette liberté parce qu'on croit que Dieu agit maintenant. On croit que Dieu va nous aider non seulement à nous lever, mais à continuer cette œuvre de restauration. Peut-être qu'il y a certains, là, ils entendent le message de l'Évangile. Et c'est vrai que c'est le message de l'Évangile, c'est un message d'espoir, de délivrance, un message de guérison. Non seulement de guérison physique, mais de guérison de nos histoires, de guérison de ce qui nous handicape, de guérison de ce qui nous rend infirmes. Seigneur, je te prie maintenant en cet instant pour que ceux qui ont besoin de recevoir le message de l'Évangile puissent le recevoir maintenant par ton esprit. Viens le planter, viens le semer et viens, Seigneur Dieu, manifester cet espoir dans leur cœur et dans leur vie. qu'il puisse se lever maintenant, qu'il puisse se saisir de cette parole, se dire ça c'est pour moi. Moi j'en ai assez, je veux plus être infirme, je veux plus être impotent. Je veux entrer dans le plan que Dieu a prévu pour moi. Je veux être heureux. Je veux m'épanouir dans mon engagement, dans ma vie personnelle, dans chaque aspect de ma vie. Seigneur, manifeste la puissance de ton esprit pour que des personnes se lèvent. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui doivent marcher, pour ceux qui ont commencé à marcher, pour ceux qui peut-être ont envie de s'arrêter, qui se disent « ça sert à rien pour moi d'aller plus loin, c'est comme ça et c'est pas autrement ». Seigneur, viens, Seigneur, ranimer cette flamme et donne-nous la force et le courage de continuer de marcher. Donne-nous la force et le courage de saisir la main qui nous est tendue. Donne-nous la force et le courage de t'ouvrir notre cœur, de ne pas avoir peur d'être face à nos faiblesses, d'être face, Seigneur, à ce qui nous fait peur, face aux choses qu'on n'a pas envie de revivre. Mais reconnaître, c'est pas forcément revivre, c'est juste mettre des mots sur ce qui est à l'origine de ce qui dysfonctionne en moi. Seigneur, agis, Seigneur, et place vraiment, éclaire, je te demande ta lumière ce matin. Je te demande que chacun nous comprenions les enjeux pour nos vies, les enjeux pour ce que nous sommes appelés à vivre ensemble en tant que corps de Christ aussi. Seigneur, tu parles au travers de l'œuvre que tu as accomplie en nous. Et je te demande, Seigneur, qu'au travers de ta parole, il y ait des choses là qui disparaissent, que ce soit le début d'un processus de guérison, de délivrance totale, complète. Nous ne voulons pas nous contenter du mieux, nous voulons le bien, Seigneur. Nous voulons la délivrance totale. Et c'est cette prière que je te fais pour chacune de nos vies, pour chacun d'entre nous. On est tous logés à la même enseigne, on a tous nos blessures. Mais Seigneur, on ne veut pas être prisonniers par ça. On ne veut pas rester limité par cela. Mais on veut entrer, Seigneur Dieu, dans ce plan que tu as pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que nous élevons nos voix maintenant pour te louer, parce que nous voulons exprimer notre liberté. Et au travers de la louange et de l'adoration, nous voulons encore nous laisser façonner par ton esprit, façonner par ta présence. Façonner, Seigneur Dieu, par ce que tu peux accomplir en chacun d'entre nous. Tu es vivant, tu agis, tu es au milieu de nous, c'est ce que nous confessons. Nous le croyons, nous plaçons notre foi en toi, Seigneur. Alléluia, Jésus, gloire et louange à toi.